Bonjour à tous et à oh, excuse. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à cette émission. On s'appelle maintenant le Retour en Force. C'est en fait le podcast Club École version 2.0. On va être plus conversationnel. Ça va être quasiment plus échangiste, si on veut. On va se relancer sur les nouvelles. Puis je vous souhaite la bienvenue. On espère vous divertir, puis on espère vous intéresser. Nous sommes le lundi 4 janvier 2021. Et Étienne va donc nous parler de l'agent libre le plus convoité depuis que Pam Anderson a rompu avec Tommy Lee.
Salut Vincent, vraiment plaisir de un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Puis ben oui, on va commencer avec Lionel Messi, qui est peut-être un joueur là, de soccer qui vous dit peut-être quelque chose là, seulement de nom.
Messi.
Un peu,
hein, légèrement. Pour l'Impact.
Une petite affaire.
Non, mais il pourrait peut-être jouer pour l'Impact à partir de l'été prochain parce que, bon, il y avait une saga Lionel Messi qui est arrivé cet été, là, Messi qui voulait quitter le FC Barcelone. Bon, ça en est suivi la démission du président Bartomeu dans la foulée. Messi a pris la décision de rester, honorer la dernière année de son contrat. Sauf que là, on est aujourd'hui justement le 4 janvier 2021 et depuis le 1er janvier, Messi peut signer un pré-contrat, comme on appelle, avec n'importe quelle équipe au monde. La façon que ça fonctionne, les contrats à la FIFA, c'est pour les joueurs qui atteignent un certain âge, je crois l'âge de 23 ou 24 ans, un joueur à qui il reste 6 mois de contrat peut négocier avec une équipe et s'entendre sur un contrat. Donc Messi pourrait quitter le FC Barcelone, devrait en fait quitter là, je pense qu'il est vraiment tanné de jouer avec cette équipe là de Barcelone et peut s'entendre à partir de maintenant avec n'importe quelle équipe. Bon, on a fait une blague avec l'Impact de Montréal là, mais on s'entend que il y a Manchester City là qui est en tête du troupeau là pour aller signer Lionel Messi. Honnêtement, je crois pas que ça va se faire tout de suite. Je pense pas que Messi va signer. Je pense que ça va attendre à la fin de la saison de la présente campagne du FC Barcelone. Puis on va avoir un gros feuilleton Lionel Messi, mais ça, on va en entendre parler pendant encore quelques semaines, quelques mois. Ça va faire les manchettes pendant très, très, très longtemps. Mais si je vous donne ma prédiction, là, Lionel Messi devrait signer au mois de juillet ou avec son prochain club.
Ben, prédiction plus importante, tu penses qu'il va coûter combien et à qui?
C'est ça l'affaire, c'est que maintenant, il va pouvoir quitter gratuitement. Il va rien coûter. S'il est en fin de contrat puis il signe un pré-contrat, il va quitter pour 0$. Fait que ce serait vraiment une grosse perte
en termes de salaire.
En termes de salaire, c'est tout le temps très compliqué. Les équipes sont assez nébuleuses en ce qui a trait au salaire des joueurs. Pas de plafond salarial fait en sorte que c'est très compliqué de savoir ça. Avec l'équipe Messi, je crois que c'est autour d'une vingtaine de millions de dollars par saison qui paye avec le. Puis ça, c'est de salaire seulement. Là. Après ça, il y a les sponsors, les bonus qui viennent doubler, voire même tripler quadrupler ce salaire-là. Donc, c'est vraiment difficile de dire. Après ça, si signe avec Manchester City ou une équipe, puis là, je lance ça comme ça, on n'a aucune piste, mais une équipe comme le PSG, mais ça se peut qu'il passe à go et qu'il réclame beaucoup plus que 200$.
Ah oui, puis aussi, là, ce qu'il faut savoir...
Y a-t-il une chance qu'il y ait un prince... Excuse, allez-y, je m'excuse.
Ah ouais, je pense, Vincent, t'as un délai avec les autres.
Oh, my bad. C'est-tu correct, là?
Non.
Tu penses-tu qu'il y a un prince héritier? Mon Dieu! Technologie, là. Ça va te plaire?
Vincent, quitte, reviens, puis d'après moi, on va continuer la discussion pendant ce temps-là. C'est bon? Merci.
Bon. Ouais, tout ça pour dire. C'est vrai que tu vois qu'ils ont fait un mauvais coup. En tout cas, Bartomeu, il a fait un très mauvais coup parce que là, il dit, on va le vendre pour combien? C'était en haut de 700 millions d'euros, tu sais. Puis c'est là que tu dis, t'aurais premièrement pas dû essayer de dealer à 700 quelques millions d'euros. Puis t'aurais dû négocier un prix plus bas avec, par exemple, Manchester City. Là, à place, tu le laisses partir gratuit. Ça fait mal, ça fait très mal.
Ouais, puis aussi avec le FC Barcelone qui est pas reconnu pour faire de super transferts, on l'a échappé plus d'une fois dans les dernières années, mais tu sais, pense que la direction au complet du FC Barcelone est complètement dans le champ. Là. Je pense qu'il y a vraiment rien qui fonctionne. Puis en fait, de laisser partir Messi gratuitement, je pense que c'est tout ce qu'il mérite. D'ailleurs, faut pas oublier non plus que Messi est arrivé gratuitement également, là, a été formé au club. Donc, c'est pas comme ça on va perdre énormément d'argent. Puis Messi, bon, 31 ans. Pas une valeur de, à mon avis, plus de 150 millions d'euros, ce qui est, c'est énormément d'argent, là. Mais n'a pas la plus grande valeur, même au sein de l'effectif du FC Barcelone, à mon avis.
Est-ce que tu es revenu synchronisé? Excuse, Thomas. Là, je suis synchro.
OK, ça va. Parce que FC Barcelone a un remplaçant pour Messi dans l'effectif présentement.
Ben, c'est difficile de remplacer le meilleur joueur au monde présentement.
Ouais.
Théoriquement, oui. Tu sais, théoriquement, t'as des gars comme, puis là, je dis très théoriquement, là, des gars comme Coutinho qui peuvent, à leur meilleur, peuvent faire le boulot. Coutinho au FC Barcelone, ça marche pas du tout. Il y a peut-être un jeune de la Masia qui il y a personne qui peut prendre la relève. En fait, non. À court terme, non. À moyen terme, non plus. Mais à long terme, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient, mais... remplacer le meilleur, puis le FC Barcelone sans Lionel Messi va vraiment, vraiment en arracher. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sans Messi.
Penses-tu, Étienne ou Pierre-Luc, pensez-vous qu'il y a une chance qu'il y ait un prince héritier de pétrole en quelque part dans les Émirats arabes unis qui fasse une offre Vito Corleone que Messi ne peut pas refuser, puis on se retrouve à voir Messi jouer pour un club qu'on ne connaît pas au Moyen-Orient? S'il y a 3 millions par année, non, ça n'arrivera pas, il veut absolument être dans les gros championnats.
Ben, je pense pas. Je veux dire, oui, il va tirer beaucoup d'argent, mais il y a déjà des princes qui ont beaucoup d'argent. Par exemple, le PSG, c'est vraiment la meilleure image que je peux donner. Tu sais, pourquoi tu irais, même si le montant est vraiment alléchant ailleurs, pourquoi tu irais dans une ligue que tu es vraiment supérieure à tout le monde quand tu peux aller, par exemple, au PSG, recevoir un montant similaire, puis rester dans les compétitions majeures? Je pense que l'avantage pour Messi, c'est de rester dans les grandes équipes européennes. Oui,
il y a de l'argent dans les gros clubs également. Là. Puis, tu sais, un des deals aussi qui avait été évoqué cet été quand Messi menaçait de quitter, c'était un deal avec Manchester City. Et deux, trois années plus tard, s'en aller du côté de New York, au New York City FC, parce que, bon, les propriétaires sont les mêmes. Le City Sports Group est un grand conglomérat qui a des équipes partout à travers le monde. Donc, l'argent est là dans les gros clubs aussi, mais rien n'empêche que Messi, qui l'a déjà dit d'ailleurs, là, qui serait intéressé à aller jouer aux États-Unis, se retrouve dans un plus petit championnat comme la MLS, qui est beaucoup moins obscur que la Ligue Qatari ou la Ligue japonaise. Là. Mais ça se pourrait très bien que, pas à ce contre-ci, mais que Messi se retrouve à aller jouer, un peu comme Xavi ou Iniesta qui sont partis il y a quelques années pour aller jouer dans des championnats plus mineurs. Là.
Ben, on va se croiser les doigts pour peut-être le voir à Montréal dans quelques années, si on peut nous faire une offre à l'échange. Mais là, on va passer à Johan qui veut nous parler de la résurrection, en fait, du football dans les alentours du lac Érié, menée par l'équipe de Cleveland.
Oui, écoute, Vincent, toi puis moi, on est des grands amateurs de films de sport. As-tu déjà vu le film Draft Day?
Avec Kevin Costner?
Absolument.
10 fois.
Exactement. Un excellent film dans lequel, bon, j'ai découvert que les Browns de Cleveland, quand c'est l'équipe principale, tu fais « Ah, bon, moi, je connais moins le football, va les regarder. Ils sont vraiment pas bons, eux. » Puis genre, l'année d'après que le film est sorti, ils se tapent une saison de défaite complète à peu près. Bref, les Browns de Cleveland avaient la plus longue séquence de non-participation aux séries éliminatoires. Ils n'avaient pas fait depuis 2002. Et là, cette année, boom, Cleveland est de retour dans le portrait des séries après un gain à l'arraché, là, 24-22 sur les Steelers de Pittsburgh, qui, parlant d'arraché, en arrache solide depuis quelques semaines. Après avoir gagné, là, on en parlait à Étienne il y a quelques semaines, après avoir gagné leurs 11 premiers matchs, ils se sont tout simplement écroulés dans les dernières semaines de la saison, terminant avec une fiche de 12 victoires et 4 défaites. Et la dernière défaite, là, justement, dernier match de la saison, contre les Browns de Cleveland. Les deux équipes, là, Pittsburgh a quand même une assez bonne fiche, on s'entend, 12-4, c'est assez bon pour faire les séries, mais pas assez bon pour sauter le tour de wild card. où ils vont devoir affronter les Browns de Cleveland. Donc ça va être un affrontement très, très, très intéressant à surveiller parce que ce serait la catastrophe ultime là, pour les Steelers s'ils devaient, après le début de saison qu'ils ont connu, se ramasser à même pas faire à même pas passer le tour de qualification des séries éliminatoires. Ce serait désastreux et ce serait tout l'inverse pour les Browns qui, après des années de misère, là, sont de retour dans le portrait et éliminent une des plus grosses formations de la Ligue. Donc, félicitations aux Browns. Une jeune équipe également, très intéressante à regarder. Il y avait des doutes là, sur à savoir si Baker Mayfield était vraiment aussi bon que ce qu'on le pensait. Bon, finalement, c'est définitivement pas le meilleur corps arrière de son repêchage, mais démontre de belles choses, démontre qu'il aurait peut-être ce qu'il faut là, dans les futures années pour être un gros morceau là, d'une équipe qui aspire aux grands honneurs. On va se le dire tout de suite, les Browns de Cleveland ne vont pas gagner le Super Bowl, mais ça regarde bien pour l'avenir.
Bon, on sait jamais, c'est en série. Une fois que c'est en série, tout est possible. Comme tout, est possible.
Tout est possible.
Puis l'affaire aussi, c'est qu'ils vont jouer à Pittsburgh, right? Puis il va faire froid. Le gazon va être dur. C'est du vrai football dans la température hivernale. Puis l'affaire avec ce genre de football-là, c'est que habituellement, c'est les équipes qui courent le mieux qui gagnent ces matchs-là. Puis il y a très peu d'équipes qui courent mieux la balle que les Browns de Cleveland. Puis il y a très peu d'équipes qui courent moins bien la balle que les Steelers de Pittsburgh. Tu as regardé les matchs, tu as vu que James Conner et Benny Snell sont incapables de courir.
Effectivement, moi, j'ai quasiment le goût de donner l'avantage aux Browns là, dans ce match-là. Je ne serais pas du tout surpris s'ils aillent chercher la victoire, mais c'est après ça que ça va se corser. Ils sont quand même là, dans une conférence avec les Chiefs de Kansas City qui vont devoir battre éventuellement s'ils veulent se rendre au Super Bowl. Ce ne sera pas chose facile. Même si les Chiefs ont quand même perdu là, cette semaine, une petite surprise face aux Chargers, mais il reste quand même la formation à battre. Là. Fait que pour les Browns, le chemin va être difficile, mais je ne serais pas du tout surpris qu'ils battent Pittsburgh.
Tu as raison. Les Chiefs jouent vraiment pas bien récemment. Ils ont perdu, comme tu dis, hier contre les Chargers. La semaine d'avance, à tout prix pour battre les Falcons, qui ont 4 victoires à l'année. Fait que, ils s'enlignent pas très bien. Les Chiefs s'enlignent pas très bien pour les playoffs. Puis ça va être bien intriguant de voir. Je pense qu'il y a une game, un match cette fin de semaine qui va être joué sur. Parce qu'il y a deux matchs de plus, parce qu'il y a deux équipes de plus dans les playoffs. Il y a un match qui va être joué sur Nickelodeon.
Oui, absolument.
Ça va être incroyable.
Avec des effets Bob l'éponge. Oui, slime dans les zones de. dans les touchdowns. Ça va être vraiment.
Sur les caméras puis tout.
Ridicule.
C'est fun. Par contre, à la défense des Chiefs, cette semaine, il était Pat Mahomes, je vois pas, Kelsey, je vois pas, il était. Il reposait beaucoup de partants.
Fait que, oui, mais c'est normal aussi.
C'est sûr que.
Ça reste que. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent parler des Browns. Vincent, je vais peut-être m'imposer dans mes transitions, mais moi, mon pick pour le Super Bowl, c'est le même à chaque année parce que c'est l'équipe pour qui je prends. Mais Thomas va nous en parler de cette équipe-là.
C'est l'équipe que à chaque semaine je les traite de fraude, puis à chaque semaine Aaron Rodgers me fait.
Non. Mais moi, c'est-tu. J'ai jamais trippé sur genre aucune équipe de football ou presque, mais quand j'étais jeune, à un moment donné à l'école, il fallait qu'on s'habille en football, whatever. Puis il y avait un ami de mon père que son fils m'avait prêté un chandail de Brett Favre. Et c'est comme ça que je suis devenu un fan des Packers de Green Bay.
Mais oui.
J'ai été fan de Green Bay en grandissant, mais j'ai réalisé une fois que Favre est parti que j'étais partisan de Favre et pas de Green Bay. Alors, de la façon qu'ils l'ont traité, ça m'a mis en colère pendant des années.
Johan, t'allais à quelle école pour avoir une journée football?
Non, c'était la rentrée, genre c'était une rentrée à thématique sportive, puis pour trouver t'étais avec quel prof puis quel groupe, fallait tout qu'on s'habille dans un sport différent.
Nous autres,
mon groupe, on était le football.
Ah, OK. Ça se défend bien.
Thomas, parle-nous du gars qui va probablement gagner le prix du joueur. Comment tu dis most valuable?
Le plus utile. Joueur par excellence.
Joueur par excellence.
Ce gars-là.
Les Packers se devaient de gagner pour s'assurer de la première position dans la NFC. On se rappelle, avec le nouveau format, c'est seulement la première équipe qui obtient la semaine de congé lors du premier tour des éliminatoires. Et c'est ce qu'ils ont fait avec une victoire de 35-16 hier face aux Bears. Aaron Rodgers a connu une autre excellente soirée. Terminant le match avec 19 passes complétées en 24 tentatives pour un temps de 240 verges et 4 passes de toucher. Avec ces 4 passes de toucher-là, il établit le nouveau record des Packers pour le plus de passes de toucher en une saison avec 48. L'ancienne marque lui appartenait avec 45 en 2011. Alors que Davante Adams a lui aussi connu une autre excellente soirée avec 6 réceptions pour 46 verges et un toucher. Lui aussi a brisé des records avec plus de réceptions pour un receveur des Packers qui est maintenant 215. L'ancien record appartenait à Sterling Sharp en 1993 avec un total de 112. Il a également égalé le record du plus de touchés pour un receveur des Packers à une saison avec 18. L'autre marque appartenait aussi à Sharp en 94 cette fois-ci. Les Bears, malgré la défaite, ont quand même réussi à se qualifier pour les séries, puisque les Cardinals ont perdu face aux Rams. Ça veut dire qu'ils vont affronter les Saints sur Nickelodeon dimanche prochain à 4h40.
J'en reviens toujours pas. Un match de football à Nickelodeon.
Tout ce que tu me dis, Thomas, ça me lève le cœur. Parce que le moindrement que quelqu'un parle des exploits de Aaron Rodgers, ça me donne le goût de. Ça me donne la nausée. Ça me donne le goût de m'installer devant la télé.
Tu peux pas dire qu'il est pas bon.
Non, il est excellent. Mais si on regarde les matchs, si on regarde comme toutes ses passes de toucher, il y en a beaucoup qui se font à la ligne d'une verge. Il pad ses stats. Il sait ce qu'il fait, puis au lieu de la courir, il va la lancer. Ça va lui donner une passe de toucher, puis ça va lui donner le trophée d'MVP. Il sait exactement ce qu'il fait. Je le déteste. Mais ouais, ça va être un très, très bon match contre dans deux semaines quand il va se retrouver. Contre qui il va jouer, Thomas? Contre qui il va jouer? Le gagnant de quel match?
Ça va être sur la plus basse équipe à remporter le premier tour.
Donc ça arrive. Ça risque d'être le gagnant des Rams puis des Seahawks, quelque chose de même?
Ben oui, ou les Bucks. Ils devraient battre Washington.
Ouais, ils vont jouer contre Tampa Bay, tant qu'à moi.
Oh, Tampa Bay qui les a déjà battus il y a quelques mois. Fait que let's go.
Ouais, mais Adams, c'était pas assez match chance, on le rappelle.
True, effectivement. Là, on va passer à Pierre-Luc. Puis Pierre-Luc, je vais te raconter une histoire de 15 secondes. Moi, quand ça me fâche un petit peu quand les fans du Canadien ou les fans des Bruins ou les fans de football se disent « On est les meilleurs fans au monde, on est les fans les plus fidèles, on est les fans les plus durs à cuire. » Quand j'entends ça, je sais, ça me dit qu'ils n'ont jamais regardé le soccer en Europe parce que ça, c'est les fans les plus durs à cuire au monde. Là, tu veux nous parler pas d'une rivalité, mais de deux équipes qui ont les fans les plus fidèles et les fans les plus durs à accueillir, n'est-ce pas?
Je ne savais pas trop ce que tu t'en allais avec ça, mais comme là, je vois ce que tu t'en vas. Je te dirais que, par exemple, je vais vous parler de Manchester City et Chelsea. City, est-ce que c'est les fans les plus...
City n'a pas de fans.
C'est ça. Le stade est souvent vide.
j'ai fait la blague à mon autre podcast qu'il fait tout le temps, très chaud au stade de Manchester City parce qu'il n'y a jamais de fans.
C'est une situation comme les Mets et les Yankees, c'est juste une ville qui a décidé d'aller pour...
Ouais, c'est une équipe montée, là, ouais.
Ok.
Une jeune. Ben, une équipe qui a beaucoup d'histoire, mais qui vient d'être rachetée, donc ça fait comme 10 ans là, qu'ils sont...
Mark my words, les Mets vont être meilleurs que les Yankees cette année.
Yes, sir.
Oui!
God. Chelsea, écoute, ils ont des bons fans, on va se le dire, ils ont des bons fans. Puis ouais. Ils ont quand même une belle histoire, puis c'est une belle équipe. Historiquement, puis même présentement. Là, cette année, le classement est un petit peu spécial en Premier League, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais bref, tout ça pour dire, je vais vous parler de Manchester City puis de Chelsea. Une victoire qui a été quand même remportée assez facilement par City. Comment?
J'ai dit oui.
Ah oui,
on va te passer dessus.
Ouais, assez facilement. Ça a été quand même un début en force, là, parce que, bon, il y a eu le milieu de terrain, Ilkay Gundogan, là, qui a accepté la passe de Phil Foden, puis qui a marqué le premier but. Trois minutes plus tard, ben, c'était Phil Foden qui, lui, a marqué un but sur une passe précise et même chirurgicale de Kevin De Bruyne. Puis, c'est ça, en l'espace de deux minutes, c'est devenu 2-0. Et puis, un peu plus de 10 minutes plus tard, ben, Raheem Sterling il s'échappe. Et puis, bon, il semble à court d'idées. On ne sait pas trop ce qui s'en va avec ça. Il prend un tir quand même inattendu qui va frapper le montant. Et puis, évidemment, ça va être Kevin De Bruyne qui va prendre le retour et puis qui va sécuriser le match avant la mi-temps. Puis finalement, Chelsea, ils ont quand même évité, ils ont quand même empêché le jeu blanc à Manchester City. Là, c'est Callum Hudson-Odoi qui a marqué dans les minutes à 90 plus 2. Et puis City se hisse en 5e position du classement de Premier League. Puis Chelsea, eux, tombent à la 8e place où City se trouvait.
Est-ce que De Bruyne est le meilleur milieu de terrain au monde? Est-ce qu'il s'est accaparé de ce titre-là?
Meilleur milieu offensif au monde, définitivement. Meilleur milieu, il faut définir la position. Mais si on parle de milieu offensif, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. La qualité de ses passes, ses tirs, tout ce qu'il fait, c'est vraiment servi sur un plateau d'or. Puis les attaquants, sont vraiment chanceux de l'avoir là.
Puis ce serait qui sa compétition pour ce titre-là?
Ouh, c'est une bonne question. Étienne, as-tu une idée vite fait?
J'essaie de regarder, là, j'ai beaucoup le nez collé sur la Premier League ces temps-ci. Là, fait que c'est sûr que moi, je comparerais ça à un créateur aussi impressionnant que lui. Je dirais un Jack Grealish, là, qui est présentement un joueur de niveau mondial qui joue avec une équipe qui fait bien cette année. Là, mais ailleurs dans le monde, rapidement comme ça, j'aurais pas de répondre. Mais un Jack Grealish ou un James Maddison en Angleterre, si on veut déterminer une deuxième position, ce serait ça.
Samuel Piet?
On n'est pas dans la même ligue, mettons.
Samuel Piet, lui, il est plus défensif, mais je veux pas. La Premier League, elle est là. Puis la MLS est quand même beaucoup. Oui.
Je m'en doute un petit peu.
Je comparais un Bruno Fernandes de Manchester United.
Moi aussi.
Ce gars-là, c'est statistique. Il y a plus d'un but ou une passe par match depuis qu'il est arrivé l'année dernière. C'est un autre joueur de classe mondiale de top niveau élite. Là. Ouais.
Ouais, Bruno fait juste carré sur tes pénalties.
Mais non, c'est pas vrai ça.
Ça, c'est pas vrai. Il marque. C'est lui qui est désigné, mais il fait quand même du très bon travail en offensif. Puis il marque des buts hors pénalité quand même. Fait que ça, je suis pas d'accord. Oui, il en marque beaucoup, mais c'est vraiment son rôle de les marquer. Fait que, voilà.
Puis faut aller les chercher, les pénaux. Moi, je dis ça, t'as beau booster tes stats, mais il se crée pas de ça, ces occupations-là. Ouais.
Je vais vous mettre en the spot avec une petite question. À chaque fois qu'il y a un gros tournoi comme le Mondial ou l'Euro ou la Copa América, il y a toujours un joueur à chaque position qui se démarque puis qu'on se dit « Oh mon Dieu, il est sorti d'où? On ne l'a pas vu venir. » Cet été à l'Euro, c'est quel gars au milieu de terrain qui va se démarquer comme ça puis qu'on va se dire après « Ah, oh, il est arrivé sur la scène mondiale puis c'est un joueur incroyable. » On the spot.
Ça dépend aussi tout le temps des équipes, comment ça fonctionne. Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'yeux qui vont être raqués sur l'équipe d'Angleterre. Là. Anyway, le tournoi est fait pour que l'équipe anglaise gagne. Là. C'est l'Euro qui est en Europe, là, honnêtement, il n'y a comme pas de pays qui l'organise. Mais à partir des demi-finales, tout se joue en Angleterre. La finale va jouer à Wembley, qui est le gros stade emblématique des Anglais. Donc, tout est vraiment fait pour que cette équipe-là anglaise gagne. Après ça, qui va être titulaire? Je vais y aller avec Jack Grealish. Encore une fois, là, je pense que ça va être lui qui a présentement une bonne reconnaissance en Angleterre, mais qui, au niveau mondial, n'est pas si connu que ça. On pourrait y aller avec un Harry Kane aussi, présentement, qui joue quasiment en numéro 10, mais qui est déjà une valeur sûre. Là, tout le monde connaît Harry Kane. Moi, je dirais Jack Grealish.
C'est un excellent choix. Moi, je vais pas me prononcer tout de suite parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Tu peux avoir certains joueurs qui vont se blesser, tu peux avoir des joueurs qui vont être exclus de l'équipe, tu peux avoir des jeunes recrues qu'on n'aura jamais entendu parler puis qu'on connaît peut-être pas en ce moment qui vont vraiment se démarquer. Ça me fait penser un peu à Mbappé, en 2018. T'sais, on le connaissait déjà, mais c'est vraiment là qu'il a vraiment pris toute son
ampleur. C'est établi.
Comment?
C'est établi, vraiment.
Ben, c'est ça. Fait que tu sais, je pense pas que je peux déterminer qui ça va être tout de suite, mais je m'attends à voir un joueur se démarquer un peu comme Mbappé le fait, pas dans la même ampleur, mais de la même façon. Là.
Ceci étant dit, l'Angleterre gagnera pas l'Euro.
Faut d'abord que s'ils veulent pouvoir. Tu dis que c'est fait pour que l'Angleterre gagne, mais tout d'abord, il faudrait que l'Angleterre puisse atteindre les demi-finales puis la finale.
C'est la meilleure équipe sur papier, là, je pense que ça va être la meilleure équipe. Puis ça va être la meilleure, tu sais, ils ont tellement de jeunes en plus. Il n'y a personne en bas de 27 ans, en haut de 27 ans dans cette équipe-là. Mais trop d'inexpérience. Puis historiquement, ça a de la difficulté à concrétiser dans les gros événements. Là. Sur papier, ça va être la meilleure équipe, mais l'Angleterre ne gagnera pas le jour.
Sur papier, Johan, c'est laquelle la meilleure équipe après pendant les camps d'entraînement de la NHL?
Sur papier, c'est quelle meilleure équipe dans la LNH? Oh boy! Ben sur papier, tu as deux équipes là, qui se démarquent tant qu'à moi. Colorado-Vegas. Je mettrais Colorado en haut de Vegas. Je te dirais que sur papier, la deuxième meilleure équipe dans la LNH, c'est Vegas.
Oh boy!
Je peux-tu? Je vais poser une question. Les équipes qui vont à Vegas, est-ce que Vegas a un avantage du terrain à la maison parce que les équipes qui vont à Vegas vont aller dans les casinos, vont aller dans des concerts, puis ils sont maganés pour les games du lendemain? Non, ils sont trop professionnels pour ça.
C'est rare que, tu sais, ça dépend de la cédule parce que, tu sais, si tu joues à Vegas un soir, mais tu joues le lendemain à Calgary, ben, tu n'auras pas le temps d'aller dans les casinos. Je te dirais, le problème. T'en parlais tantôt, en fait, on va faire un autre lien avec les fans intenses et tout. À Vegas, c'est un aréna qui est difficile à jouer, là, parce que les fans sont vraiment présents, ils sont vraiment dans le match, ils sont très, 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 très impliqués pour leur équipe. Donc ça rend les choses difficiles. Donc c'est un désavantage pour les équipes d'aller à Vegas. Cette année, en temps de pandémie, il va y avoir aucun désavantage d'aller jouer à Vegas.
Faut dire que, par exemple, les casinos sont là pour les joueurs locaux également. Oui. Ça peut être un désavantage encore plus grand pour l'équipe qui est là. Puis, j'ai fait un froid la semaine dernière en parlant de Montréal. Là. Mais on en a eu des histoires là, de fêtes. Ben, il y en a partout. Là. Mais je pense que l'environnement montréalais fait aussi en sorte que ça peut être très distrayant pour des joueurs professionnels.
C'est là qu'il peut avoir un certain avantage de jouer dans une équipe perdue. Là. Genre ouais,
c'est juste Wild du Minnesota. C'est juste que ta vie est plate. Mais sinon, tantôt, je préparais le pool de hockey du Club École là, qu'on prépare à l'interne. Là, puis j'étais en train de regarder des destinations puis je me disais, ça doit tellement être plate. Aller jouer à Columbus, justement au Minnesota, là, signe au Minnesota. Tu sais, nous, on regarde les équipes, on ne pense pas nécessairement à ça, à l'environnement, à qu'est-ce qu'il y a dans la ville, mais des fois, ça ne doit pas te tenter d'aller dans des
villes. Le Minnesota, ils s'appellent eux-mêmes le State of Hockey.
Ouais.
Ouais, mais c'est aussi l'affaire que si faut que tu te mettes des fois dans la peau du joueur. Est-ce que le joueur préfère être à Montréal où il ne peut pas aller au restaurant sans se faire. Ouais.
Absolument. Il y a beaucoup de joueurs qui vont les signer là, dans des plus petits marchés.
Ou tu signes à San Jose ou à Tampa Bay. Tu t'en vas pas en plein milieu des États-Unis au Minnesota. T'sais, si tu peux signer à San Jose, c'est à mon avis la meilleure place où aller. Ouais,
c'est pour ça que le Minnesota n'a jamais été bon.
Ouais, oh! Ouais. C'était pas un but de Brett Hall. J'ai sorti une référence. C'est une bonne?
c'était dalle.
Ah merde, je m'excuse.
Le but de Brett Hall, c'était Dallas contre Calgary.
C'est la même couleur. Là.
C'était Dallas contre
Buffalo, à Gardin 19.
Ouais, c'était contre Buffalo, c'est ça.
On va suivre sur le hockey. Thomas, tu veux nous parler des Suédois qui ont été éliminés et que la nation doit être malheureuse?
Ça a été une dure semaine pour les Suédois. Ça a commencé avec la fin de leur séquence de 54 victoires consécutives en match préliminaire. Pour vous donner une idée, ils n'avaient pas perdu au dos préliminaire du championnat mondial junior depuis 2007. Ça a terminé avec une défaite de 4-3 face aux Russes en prolongation. C'est continué avec une dégonflure totale contre les États-Unis de 4-0 dans un match où est-ce qu'ils ont complètement manqué de chance. On parle de plusieurs poteaux, des occasions ratées, un tir de penalty où est-ce que Söderström, je ne me trompe pas, a complètement échappé de la rondelle. On parle vraiment d'un match où est-ce qu'ils ont manqué de chance. Et c'est terminé avec l'élimination samedi face aux Finlandais. Pourtant, ils ont commencé le match, eux qui avaient pris les devants 2-0 après la première période. Mais après la première, les Finlandais ont totalement dominé pour tenir une idée. Les tirs dans les deux dernières périodes, c'était 27 à 13 pour les Finlandais. Et ce qui devait arriver est arrivé. Hirvonen a marqué à 23 secondes de la fin pour jouer les roues. Nikkanen et Anton Lundell ont été les autres marqueurs pour les Finlandais. Dans la défaite, Lucas Raymond a s'illustré avec un but et une passe, alors que Söderblom a marqué un but spectaculaire avec un tir entre les jambes à l'embouchure du filet, une manœuvre qu'on a vue à plusieurs reprises depuis le début du tournoi.
Trop souvent, même.
Ouais, ça perd de son côté spectaculaire un peu. C'était seulement la deuxième fois en 16 ans, je me trompe pas, où est-ce que les Suédois ne participeront pas aux demi-finales. Donc, c'est vraiment quelque chose de très rare. Avec leur victoire, la Finlande va affronter les États-Unis ce soir à 21h30 pour les demi-finales.
Je vais te poser une question. Je suis tombé par hasard sur un tableau des meilleurs pointeurs de ce tournoi-là. Puis j'ai vu Américains, Canadiens, puis ensuite, je pense que j'ai vu trois Allemands dans le top 5. Ouais. Est-ce que les Allemands sont bons?
Non.
Les Allemands ont...
Peux-tu répondre à ça? Parce que j'en ai parlé à sur-réception vendredi dernier. J'avais fait le calcul. T'as raison. Les Allemands, là, ils avaient trois joueurs dans ce tournoi-là. En fait, ils en avaient deux. Puis ils en avaient un qui jouait avec ces deux-là. À part ces trois-là, donc Stutzli 10 points, Peterka 10 points, Elias 9 points, il y a 5 joueurs qui ont obtenu 1 point et il y en a 2 qui ont obtenu plus qu'un point.
Ouais.
Fait que t'as un gars à 4 points, un gars à 2 points, 3 gars à 1 point, puis les 3 autres. L'Allemagne, c'était une équipe de 2 joueurs.
Fait que c'est vraiment une situation comme quand McDavid jouait dans les juniors. N'importe qui joue avec lui va se ramasser des points, mais l'équipe ne va pas nécessairement être la meilleure.
Ben, je te dirais que c'est exactement ce qui se passe avec McDavid en ce moment dans la LNH.
Oh! Wow.
Ce ne sera pas ce qui va se passer cette année, mais c'est ce qui s'est passé dans les dernières années.
Il ne joue pas avec Dreisaitl? Il n'y a pas de talentueux Dreisaitl?
Pas tout le temps.
Okay. Un Allemand également?
Oui. Oui.
Par contre, à la défense des Allemands, ils ont joué la majorité du tournoi à trois trios, puis 5 puis 4 défenseurs. Mm-hmm. Également, aussi, t'avais Reichel et Sider qui n'ont pas pu participer au tournoi, qui auraient grandement aidé. Là. Avec un aimant complet, c'est sûr que le Canada ne gagne pas 16 à 2.
Ouais, mais ils terminent dans la même position. Là. C'est moins violent les défaites qu'ils prennent, mais je pense que les Allemands en général, ça, c'est ça.
Non, mais ils auraient pu, puis encore une fois, on en a parlé à sur-réception, donc désolé pour ceux qui écoutent les deux podcasts, c'est redondant, mais avec une formation complète, puis avec ces joueurs-là, l'Allemagne aurait battu la Russie tant qu'à moi.
Mm-hmm. Avec déception pour les Suédois et également déception pour Chimaev et Edwards qui ont vu leur combat reporté, Étienne.
Ouais, ben là, ça commence à être une blague, là. Hamzat Chimaev contre Leon Edwards, là, on commence à être tanné un peu, là. Je vais juste faire un... On est dans l'UFC, là. Je vais juste faire un petit portrait des deux combattants, là. Leon Edwards, il est considéré numéro 3 dans la catégorie des mi-moyens. Donc, numéro 3 meilleur au monde, en fait, là. Et sauf qu'il n'a pas combattu depuis le 20 juillet 2019. Donc, ça fait un an et demi qu'il n'a pas combattu. De l'autre côté, on a Hamzat Chimaev qui a combattu 3 fois en 2020 lors de ses débuts dans l'UFC. Il a combattu le 16 juillet et le 26 juillet. Deux combats en 10 jours. L'UFC semble vouloir le lancer. Puis après ces deux combats qu'il a gagné de manière assez convaincante, il s'est frotté à Gérald Merchart qui l'a battu en 17 secondes. Donc, Hamzat Chimaev, 3 combats en 2020, a vraiment une grosse hype, vraiment un énorme potentiel et l'UFC semble vouloir le mettre de l'avant. Je pense que ça a peut-être un lien avec la retraite de Khabib Nurmagomedov où on veut aller chercher un autre Russe pour le marché, là, pour aller continuer à aller chercher de l'argent là. Mais bon, donc là, ça fait quelques fois que Chimaev et Edwards sont supposés croiser le fer. Donc là, on a le numéro 3 de la catégorie des mi-moyens contre un gars qui n'est même pas encore dans le top 15. Et justement, ça va être tout un test pour Chimaev et Edwards. On a vraiment hâte de le voir. C'était supposé avoir lieu le 19 décembre dernier. Le combat a été annulé en raison d'une blessure où je crois que c'est Khamzat Chimaev qui avait été testé positif à la COVID-19. Donc là, le combat est reporté. On se dit, bon, mais c'est pas plus grave que ça. On va le revoir le 20 janvier prochain. Donc, dans 3 semaines, ça va être supposé être le combat qui reprend. Mais on a appris il y a quelques jours que Chimaev est pas tout à fait remis de la pandémie, a des effets à long terme et peut pas combattre le 20 janvier. Donc le combat va être remis encore une fois dans quelques semaines, voire quelques mois. Puis ça, c'est extrêmement décevant parce que c'est un combat qu'on attend, que les fans d'arts martiaux mixtes attendent depuis justement quelques semaines, quelques mois, qui arrive pas. Puis là, quand ça fait 2 fois qu'on leur porte, ben, on commence un peu à être tanné puis bon, à s'énerver un peu. C'était supposé être le combat principal de la carte du 20 janvier et c'est remplacé par Neil Magny contre Michael Chiesa. Honnêtement, le fan en perd pas mal au change avec cet affrontement-là. Donc, Khamzat Chimaev, qui est vraiment un nom à surveiller, mais qui là, bon, avec la COVID et tout, bon, ça se retarde un peu et puis ça, c'est extrêmement dommage.
Je pense que la grosse question que tout le monde se pose, que tous les partisans de MMA se posent, c'est qui gagnerait un match entre Chimaev et John Wick, à ton avis?
John Wick?
Yeah.
C'est une excellente question.
John Wick avec ou sans pistolet?
Sans arme. On les met dans une cage World Rumble style, puis let's go.
Ben moi, honnêtement, Chimaev m'a fait vraiment peur, puis... C'est un beurre, là, ce gars-là. Ça va dépendre du poids de Kenny Reeves à ce moment-là. Si on décide de faire un catch weight, là, donc il n'y a pas de limite de poids, ça va dépendre. Chimaev qui finit ses combats très rapidement, mais non, je donnerais l'avantage aux Russes, là, assurément, parce que
c'est un beurre. Est-ce qu'il se bat contre des ours, lui aussi?
J'aurais tendance à dire c'est dans la même confrérie que Khabib Nurmagomedov, honnêtement là, c'est plus lourd là, Chimaev qui est en mi-moyen ou en moyen là, donc c'est quelques dizaines de livres au-dessus, mais oui, non, c'est des gars, c'est eux autres, ils vivent dans leur grotte là, puis ils chassent à main nue là, c'est hallucinant, ils me font peur, ces gars là.
Regarde, moi j'ai jamais parié contre un Russe dans la UFC, dans la MMA. Par contre, une équipe contre laquelle j'ai beaucoup parié cette année, c'est Arsenal, Pierre-Luc.
Écoute, ça va bien ces temps-ci. C'est ça qui est surprenant avec Arsenal. Mm-hmm. Depuis 2 semaines, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça semble avoir débloqué parce que je vais juste rappeler, il y a peut-être 2 semaines, Arsenal était à quelques points des positions de relégation. Fait que ça n'allait pas bien. Ça va peut-être pas encore parfaitement bien présentement, mais ça va beaucoup mieux parce que les Gunners, ils ont remporté leurs 3 dernières parties, puis c'est quand même de manière convaincante. Fait qu'on avait une victoire de 3-1 contre Chelsea, une victoire de 1-0 contre Brighton et North Albion, et puis une victoire de 4-0 contre West Bromwich Albion. Fait que là, Arsenal, maintenant, se trouve en 11e position. Fait que, tu sais, ils ont avancé un petit peu, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que le classement de la Premier League est extrêmement serré cette année. C'est quand même surprenant. Parce que normalement, on voit vraiment les équipes plus se détacher des autres, mais là, tout est lié. Fait que là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ils sont en 11e position, mais ils sont seulement 3 points derrière la 6e position. Fait que la 10e et la 6e, c'est le même nombre de points. Fait qu'Arsenal, ils peuvent remonter assez rapidement.
Ah, la compétition est relevée, par exemple. Je ne sais pas s'ils vont être capables.
Je ne sais pas s'ils vont être capables, mais au moins, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ils se sont sortis du trou. Puis c'est ça qui est quand même bien pour eux. Puis même l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, il disait justement que la victoire de 4-0, il disait qu'il était justement confiant que ça allait être un point tournant pour la saison de ses troupes.
Mais il faut dire que ça tombait bien. Ben, je pense qu'honnêtement, la victoire contre Chelsea, personne n'avait vu venir. Qui n'avait pas gagné depuis le... Arsenal n'avait pas gagné depuis le 1er novembre. Cette victoire-là qui est arrivée le 26 décembre est arrivée un peu de nulle part. Mais après ça, on avait les belles équipes pour se relancer. Là, Brighton, honnêtement, cette année, ben, puis Brighton en général, c'est mollo. Puis on avait un West Brom qui va redescendre aussi rapidement qu'il est remonté, là, malgré l'arrivée de Sam Allardyce. C'était un bon moyen pour se relancer. Puis Mikel Arteta doit être très content d'avoir un boulot le 4 janvier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient parié ça il y a 2 semaines.
C'est ça, moi, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il se fasse congédier soit au début de l'année ou soit juste avant 2021. C'est quand même une surprise. Est-ce qu'il va se faire congédier prochainement? Je pense pas que la porte est fermée là-dessus. Ça va dépendre des prochains matchs parce que ça, c'est peut-être juste 3 victoires qui vont suivre après ça. Ça va peut-être être quoi? On peut peut-être retourner avec une mauvaise séquence comme en début de saison. Là, c'est vraiment pas impossible avec une équipe aussi inconstante que Arsenal.
Arsenal, c'est à Londres, right? Est-ce que les joueurs d'Arsenal, est-ce que l'équipe d'Arsenal est autant scrutée à Londres que, disons, le Canadien, les à Montréal ou que les Yankees le sont à New York? Est-ce que c'est comme l'équipe la plus scrutée de la ville ou ce serait Tottenham? Tottenham.
Excellente question.
Il y a aussi à Londres. Hein? Ouais, il y a comme 6 équipes de Premier League qui sont basées à Londres.
Pardon?
Il y a 6 équipes en Premier League. Oui, Crystal Palace avec ça. Tottenham, Arsenal, Chelsea, là, oh, là j'ai oublié les autres. West Ham. Bon, pour continuer, je vais aller regarder ça. Là, ouais.
Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham,
Fulham,
puis il y en a un autre.
Puis après ça, on se demande si Montréal pourrait soutenir 2 équipes à la NHL, puis il y en a 6 à Londres. Mais oui, comment?
Avec des stades pleins à 40 000 places dedans. Là.
C'est pas pareil.
C'est vraiment un gros marché en Europe, mais spécialement en Angleterre pour le football. Là, c'est absolument incroyable. Tu peux avoir, tu sais, je veux dire, tu as 3 grandes divisions, puis dans ces divisions-là, tu mettons les divisions plus basses, en moyenne, quoi, 20 000 à peu près, comme le stade de Saputo. Mais comme, tu sais, je veux dire, ils sont quand même dans les mêmes villes où tu as la division 2 puis le championnat en Premier League. Là. Fait que tu as des milliers et des milliers de partisans qui supportent des équipes différentes de football dans les mêmes villes. Parce que, tu sais, il y en a 6 en Premier League présentement. Mais là, en dessous, tu sais, je veux dire, à Londres, j'ai pas les chiffres, mais dans le championnat Division 2 puis Division 3, il y en a plus. Puis les stades, il y a quand même dedans, là.
J'allais vous poser la question, quelle était la meilleure ligue en Europe, mais je viens de me souvenir d'une nouvelle que j'ai lue, puis je vais vous poser cette question-là à la place. J'ai lu un rapport qu'il y avait des rumeurs que la ligue au Mexique allait peut-être se greffer à la MLS pour créer comme une super MLS. Ce serait-tu une bonne idée? Ce serait quoi les conséquences de ça? Puis pensez-vous que ça se peut? Hein?
Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle de ce merge-là là, entre les deux. Ben, plusieurs années. Depuis que je suis la MLS, là, on parle d'une potentiel de mélanger les ligues. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Déjà que j'aime pas le fait qu'au soccer, les ligues soient mélangées, là. Les pays soient mélangés. En Amérique du Nord, tu sais, la MLS, qui est une ligue canadienne et américaine. Ça, je suis pas un fan. Oui, il y a des équipes d'Angleterre comme Swansea ou Cardiff qui appartiennent sur le territoire des pays de Galles qui jouent en Angleterre. Moi, je suis pas un fan de ça. Surtout qu'on a une compétition déjà. Il y a la Ligue des champions de la CONCACAF là, qui existe pour mêler les équipes de la MLS et les équipes de la Liga MX. Moi, je suis pas un partisan de ça. Je sais pas exactement ce serait quoi l'avantage à court terme. Je pense que ce serait vraiment quelque chose qui avantagerait le Mexique et le sud des États-Unis, mais en ce qui a trop au Canada, je pense pas que ce soit très avantageux. Si on prend l'exemple de l'Impact de Montréal.
Je pense que l'objectif là-dedans, ce serait... L'affaire, c'est qu'ils veulent offrir le meilleur niveau de jeu au plus de partisans possible, right? Fait que si tu greffes les deux ligues ensemble, tout le bon talent, le talent incroyable qu'il y a au Mexique, va dégouliner puis va aller dans les équipes de la MLS. Fait que tu peux qu'un jour on se réveille puis à Montréal on ait 4, 5, 6 joueurs mexicains puis que le niveau de jeu soit beaucoup plus relevé, que si on a des joueurs de Blainville ou de Mirabel ou de Saint-Jérôme.
Sauf que tu fais quoi après ça? Tu vas te retrouver avec 40 équipes dans la ligue là, tu sais, puis au niveau du voyagement, ça va être très compliqué. Puis après moi, s'ils font ça, ça va être un système de relégation. Je sais pas comment ils vont être capables de faire vivre 40 équipes dans une seule ligue. Là, il y en a presque 30 déjà en MLS. Il y en a une vingtaine au Mexique. Il y a des marchés qui vont mourir de ça. Ou tu fais un système de relégation, puis aux États-Unis, les propriétaires accepteront pas ça.
Mais est-ce que ça fonctionne en Russie? Parce que je sais qu'en Russie, tu sais, la Superliga en Russie, ils ont sûrement greffé les équipes du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan. Fait que ça doit être une grosse ligue avec plusieurs équipes dans plusieurs pays soviétiques. Ça fonctionne comment là-dedans? Puis tu penses pas que ça fonctionnerait ici?
Je pourrais pas répondre. Comment que ça fonctionne en Russie? Je sais pas, malheureusement.
La Superliga, je connais de nom, je connais pas les noms d'équipes parce que c'est en russe. Genre, je m'avancerai pas trop là-dessus, honnêtement.
Moi, je sais qu'il y avait un Brésilien, Hall, qui jouait à Saint-Pétersbourg, il me semble, à un moment donné.
Saint-Pétersbourg ou Zénith?
Locomotive.
Peut-être.
Je sais pas.
Bon, ben, on va passer à Johan qui va nous parler d'une demoiselle qui a fait un grand exploit cette fin de semaine.
S'il y en a qui ont suivi les articles de recap de l'année du Club Éca, ben, vous aurez remarqué que dans mon souhait pour 2021, j'avais dit que je voulais voir la première entraîneuse-chef de l'histoire des quatre grandes ligues d'Amérique du Nord. Ben, pour moi, mon souhait de 2021 est arrivé à l'avance, puisque c'est pas en temps plein, là, donc il y a encore cette étape-là à franchir, mais Becky Hammon, qui a pris le poste d'entraîneuse-chef par intérim mercredi dernier dans un match des Spurs face aux Lakers, le coach de San Antonio, c'est Greg Popovich, puis il s'est fait éjecter du match, en fait. Et en sortant, il a légué son rôle à Becky Hammon, qui est devenue entraîneur-chef pour le reste de la rencontre. Et ça, c'est sans surprise. Là, j'avais dit dans un article dans le passé aussi que selon moi, c'est elle là, qui serait la première entraîneur-chef dans tout le sport majeur masculin en Amérique du Nord. C'est elle qui est là depuis le plus longtemps. C'est elle qui a démontré à maintes et maintes et maintes reprises qu'elle avait tout ce qu'il faut pour être aussi bonne, sinon meilleure que la majorité des hommes dans le milieu. Donc, c'est vraiment un beau moment puis quelque chose de très mérité pour Becky Hammon.
C'est l'héritière de Pat Summitt. Puis de toutes ces grandes entraîneurs-chefs, femmes au collégial qui ont fait des exploits, qui ont brisé des barrières pour que Becky Hammon, justement, puisse réaliser cet exploit-là de
coaching. Exactement. C'est pas Becky Hammon toute seule. Là. C'est vraiment, c'est même pas juste dans le basketball collégial ou tout. C'est les femmes en général dans le sport masculin qui le travail ensemble culmine avec des femmes comme Kim Ng, comme DG des Marlins ou comme Becky Hammon prochainement. Est-ce que ce sera à San Antonio comme entraîneur-chef ou ailleurs dans la NBA, mais qui va devenir là, assurément là, entraîneur-chef dans deux ans maximum.
Exact. Je doute que ce soit à San Antonio parce que Greg Popovich a cette job-là pour...
À moins qu'il meure d'une crise cardiaque deux mois, là, ce serait...
C'est ça.
Il est là pour rester.
C'est ça. Il y a une expression en anglais qui est c'est « hot seat ». Donc, le siège de Popovich n'est pas chaud. Il n'est pas inquiet pour sa job.
Vraiment.
Par contre, tu sais, les sièges chauds, donc les « hot seats », il y en a très peu aussi chauds que le coach de Montréal ou le coach des Dallas Cowboys. Puis aussi le coach de PSG, j'imagine. Là, c'est, s'il n'y a pas de succès... T'es dehors rapidement?
Ouais, dans le cas de l'ancien entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, qui on peut dire a touché le fond au PSG.
Ah, boy. Thomas
parlait trop, on allait le sortir, fait que bye bye.
Ok. mardi passé, il s'est fait sacré dehors de sa job d'entraîneur du PSG. Après une victoire de 4-0 face à Strasbourg, il aurait fait une entrevue à une station de télévision allemande comme quoi que ce serait plein que de coacher le PSG serait semblable à être un politicien parce qu'il faut que tu gères beaucoup d'ego et que faut que tu respectes aussi les lignes de parti des dirigeants du club. Il y avait également des tensions avec le directeur sportif Leonardo, comme quoi que le PSG laissait aller trop de joueurs gratuitement, comme qu'on l'a vu dans le dernier mercato avec Thiago Silva et Edinson Cavani, qui sont présentement à Chelsea et à Man U, respectivement, et qui connaissent des bonnes saisons. Pour le remplacer, ils ont amené Mauricio Pochettino, qui est l'entraîneur à Tottenham jusqu'à novembre 2019. Il a un bon résumé, lui qui les a amenés à la finale de la Ligue des Champions, tout comme Tuchel a fait pour le PSG en 2020. Il les a amenés en 2019. Il revient également au PSG, lui qui a joué en tant que défenseur central de 2001 à 2003. Ce serait bien intéressant de voir ce que ce changement va apporter pour l'équipe, qui est présentement troisième à un point de l'OL et de la tête de la Ligue 1.
Tu me dis que Paris n'est pas premier?
Non, Paris n'est pas premier. Oui, quand je sais, j'ai fait le saut.
Ouais, c'est la raison pourquoi il pleut.
Parce que bon, c'est gênant quand t'es
paré
et que t'es pas premier. Là.
On ben oui, leur budget pour acheter des joueurs est pratiquement illimité.
Oui, c'est génial. Ça okay.
Est-ce que c'est l'équipe que vous détestez le plus en soccer européen?
Je suis assez indifférent, moi, sur PSG. Je suis pas... Tu sais, fait partie de la game là, d'acheter des championnats. Tu sais, pas mal de toutes les équipes essaient de le faire, là, surtout en... Tu sais, ben, pas tout le monde, mais... J'ai regardé aller. C'est sûr que j'aimerais jouer un peu quand je vois des choses comme ça. Là. Je vois que tu essaies d'acheter des championnats, des Ligues des champions, puis t'es même pas... T'as fait la finale cette année, mais qu'avant, t'as même pas réussi à te rendre en demi. Là, mais je suis plus indifférent que j'en tiens une haine envers le PSG.
Là. Ouais, Paris, je pense que c'est rendu un espèce de mime là, dans le monde du soccer, justement parce que autant que tu dépenses de l'argent, tu n'es pas capable de gagner les championnats que tu veux. Dans un sens, est-ce que c'est l'équipe que je déteste le plus? Non, parce que j'ai quand même du fun à voir que l'argent n'achète pas la classe ni les titres.
Fait que vous les détestez pas, mais vous avez trouvé ça quand même très satisfaisant quand le Bayern leur a mis une raclée en finale de la Ligue des Champions cette année.
Ça finit 2-0.
Bah, ouais. C'est une raclée.
C'était pas, je ne voudrais pas définir ça comme raclée. C'était quand même un match qui était bien contrôlé par le Bayern. Mais tu sais, oui, c'est sûr, moi, personnellement, j'avais un penchant pour le Bayern avec Alphonso Davies. C'est sûr, c'est notre joueur canadien. Fait que je veux pas. Moi, ça m'a fait plaisir de les voir gagner là.
Juste rapidement comme ça, là, la valeur totale du PSG est à environ le quart de celui de la Ligue. La valeur des joueurs là, sur Transfer Market, là, juste t'sais, à quel point le talent est supposé être là, le quart, là, puis son deux ou troisième.
D'accord. Pierre-Luc, choc des Titans dans la Premiership.
En Premier League, ben en fait, ce qui se passe, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, puis je pense que c'est excitant, là, c'est de voir Manchester United puis Liverpool qui sont au sommet ensemble. La grosse surprise dans ça, en fait, il y a deux surprises. Premièrement, c'est Manchester United qui est à égalité avec la première position. Puis la deuxième surprise, c'est que Liverpool, ça va plus ou moins bien ces temps-ci. Dans leurs cinq dernières rencontres, ils n'ont que deux victoires et ils ont trois matchs nuls. Fait que, est-ce que la machine offensive, elle est cassée? Peut-être. Il y a un match de 7-0 là-dedans. Fait que, tu sais, difficile à dire. Mais tout ça pour dire que quand tu as trois matchs nuls puis que tu étais la meilleure équipe dans les dernières années, il y a quelque chose qui ne va pas en quelque part. Et puis, c'est ça. Là, ce qu'il faut regarder, c'est que Manchester United pourrait prendre d'assaut la première tête de position si les problèmes de Liverpool persistent. Et puis, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que les têtes de classement, donc Liverpool et Manchester United, vont s'affronter le 17 janvier à Anfield sur la pelouse de Liverpool.
C'est malade. Honnêtement, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Manu aussi proche. Tu sais, à ce stade-ci, la saison est à la mi-saison. Puis Manu a connu un début de saison extrêmement difficile. De les voir contender, puis tu sais, sérieusement pouvoir penser au titre du côté de Manchester United, je trouve ça incroyable. Moi, Manchester United, c'est mon équipe de cœur, puis de voir ça, je trouve ça complètement fou.
Ouais. Manchester United sont en train de redorer leur blason, fait que je pense que c'est le bon moment pour se hisser au sommet, puis avec l'équipe qui ont, tu sais, souvent ils ont les partisans, puis les gens, ils ont sous-estimé Manchester United parce qu'il manquait des joueurs. Mais depuis que Bruno Fernandes est là, les attaquants, ils roulent comme des machines. Martial, Rashford, c'est des machines à but. Puis c'est là qu'on en parlait tantôt, mais Bruno Fernandes, c'est un joueur. On le comparera pas à Kevin De Bruyne, mais vraiment. Mais
c'est un game changer, c'est un team changer. Il est arrivé dans cette équipe-là, puis il l'a complètement transformé. Ouais. C'est hallucinant qu'est-ce que Bruno Fernandes fait avec une équipe correcte qu'est Manchester United. Puis tout le monde est meilleur à côté de lui. Tout le monde. Paul Pogba, quand il joue avec Bruno, c'est fou. McTominay, qu'est-ce qu'il a fait contre Leeds le 2-3 semaines, c'est hallucinant. Bruno Fernandes est un joueur d'exception.
Moi, j'avais une question pour toi, Étienne, toi qui es fan de Manu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Daniel James?
Bon, Daniel James, c'est juste un joueur moyen. Là. C'est juste un joueur de rotation qui c'est ça. Il a pas été acheté beaucoup, puis il a marqué comme 4 buts à ses 4 premiers matchs l'année dernière, puis on le voyait vraiment haut. Mais Dan James, c'est juste un joueur de rotation que j'adore. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais ce sera pas le penchant droit de Rashford. Ni, je pense qu'il a été sur club. Il a réussi à passer devant Lingard, ce qui est pas un grand exploit. Là. Je pense que je réussirai à passer devant Lingard également. Là. Mais il y a Greenwood qui passe way au-dessus de Dan James. Mais qui à mon avis, tu le rentres là, en fin de match quand tu mènes 1-0. C'est un des joueurs les plus pratiques. Là. Je l'aime beaucoup. Mais c'est ça. Puis devant le but, il manque beaucoup de puissance. Là. Ouais. Mais,
Dan James, ça reste un jeune joueur. Fait que, tu sais, est-ce qu'il n'est pas encore au sommet de sa forme, selon moi? Peut-être que dans plusieurs années, avec Fernandez, il va peut-être avoir une chimie qui va se développer. Mais pour l'instant, de dire que Dan James va être un joueur clé partant, je ne pense pas.
Mais il te faut des Dan James dans ton effectif. Il t'en
prend. Ça te prend des bons substituts. Puis si tu veux un excellent substitut, Dan James, tu as besoin d'un but, il va aller te le marquer ou il va te créer des bonnes chances de le faire. Là.
Mm-hmm. Ouais, il y a très peu de choses que j'aime plus. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Ben, moi, ce que j'allais vous poser comme question, c'est en fait que j'allais vous dire qu'il y a très peu de choses que j'aime plus le dimanche matin que de me réveiller tôt puis de manger un déjeuner typiquement anglais avec un mimosa, puis des fraises, puis de la crème, puis de parier sur la Premier League le dimanche matin. Qu'est-ce que je fais dimanche lorsque ces deux équipes vont jouer?
Ah, mon Dieu. Mais parier un match nul. Parier un match nul, c'est Anfield. C'est Anfield. Manchester United n'ira pas gagner Anfield, mais je pense qu'on va faire le nécessaire pour pas perdre. Mais il n'y a personne. Ouais, mais peu importe. Je pense qu'on n'était même pas nés la dernière fois que Liverpool a perdu à Anfield. Tu sais, ça n'arrive pas. Là, mais la dernière fois, c'était contre Atlético Madrid l'année dernière, mais... en Ligue des Champions, mais en Premier League, ça fait. Puis, depuis que Klopp est là, je ne suis même pas sûr qu'ils ont perdu ou ils ont peut-être perdu au début, là, mais Liverpool. Puis, si Manchester United gagne contre Liverpool à Anfield, Manchester United gagne la Premier League.
Est-ce que je devrais juste parier au-dessus de 2,5 buts, quelque chose de même?
Oh non. Ce ne sera pas un festival offensif. Là. Non. Je te dis, c'est un 0-0 ou un 1-1. Là. Je m'attends pas à un. Ça va être un des matchs les plus importants de l'année, là, parce que ça va être les deux premiers qui vont se battre pour. Pour cette justement première place-là, mais non, ça va être un match nul de 1. Bon, ouais.
Alright, ben, moi je vois ça comme quand tu paries sur un match nul, je vois ça comme parier contre du fun.
Oui. Mais de manière très pragmatique, là, ça pue le nul ce match. Comme le match Manu Wolverhampton que Manu est allé chercher finalement à 93e minute. Ouais. j'ai crié fort. Ouais.
Yes! Parle-nous donc de Dadov qui est disparu.
Dadou Jambard là, qui est présentement poursuivi par plusieurs personnes. J'ai parlé beaucoup du cas d'Adou Jambard, du cas de ce qui se passait avec la Fédération haïtienne de football. Juste petit résumé, là, il a été démontré qu'il y avait des stratagèmes et beaucoup de gens. Un stratagème d'agression en fait de jeunes joueuses de la Fédération haïtienne de soccer. Gros travail de Romain Molina, journaliste indépendant en collaboration avec The Guardian qui a sorti l'histoire il y a quelques mois. Puis là, ça a déboulé, j'en ai parlé il y a quelques semaines, ça a déboulé avec la FIFA qui s'est installée à la tête de la Fédération haïtienne de soccer pour 2 ans. Il y a des accusations qui sont portées contre Dadou Jambard, qui était le président qui était au centre de ces stratagèmes-là. On est en train de chercher des complices. Il y en a. C'est prouvé qu'il y en a. On est en train d'en chercher et on va les poursuivre en justice. Il y a des jeunes athlètes qui reviennent dans les tribunaux et qui portent plainte et qui poursuivent Dadou Jambard. Sauf que le problème, c'est que Dadou est disparu. On ne sait plus où. Il y a beaucoup de sources proches de lui qui disent qu'il a quitté Haïti, mais on n'a aucune idée où il se trouve. Donc, on est en train d'essayer de mettre la main dessus pour être en mesure de le faire passer devant les tribunaux et que justice soit faite. Mais présentement, on n'a aucune idée d'où il se trouve, ce qui est très dommage parce qu'il doit se retrouver en prison, cet homme-là, mais ce qui est quand même bon signe, c'est que présentement la FIFA a quand même fait ce qu'il fallait et on a réussi à trouver les coupables, on a réussi à dénoncer, on a réussi à accuser. Faut maintenant ça. Et il va falloir les trouver, mais ça se conclut tranquillement et ça se conclut d'une assez bonne façon, cette histoire-là, cette histoire très horrible de la Fédération haïtienne de soccer. Mais voilà, juste un petit update, là. Il irait juste à mettre la main sur Dadou Jean-Bart, il va se retrouver en prison, puis chose va être.
Ce scandale-là, ce réseau d'abus-là, on parle de ça à quelle échelle exactement? Est-ce que c'est comparable à Larry Nassar à Michigan State? Est-ce que c'est comparable à Penn State? À quelle échelle? Est-ce qu'on parle d'une centaine de victimes? Est-ce qu'on parle d'une dizaine?
On parle de quelques dizaines. J'ai écrit un article là-dessus là, au début du Club École, là, donc en juin dernier, là, Histoire d'horreur à Croix des Bouquets. Je vous invite à aller le consulter, à aller le lire, là, parce que bon, ça fait état des différents stratagèmes et des différentes victimes. Oui, on parle de quelques dizaines de victimes. On parle aussi d'enfants illégitimes qu'aurait eu Dadou Jean-Bart avec des athlètes. Oui, c'est quand même assez gros. Puis encore, je le répète, gros travail de Romain Molineux et de ses collègues du Guardian d'avoir été en mesure de creuser ces histoires-là et de les dénoncer. Voilà.
Ben, regarde, c'est triste, c'est attristant, c'est horrible cette histoire-là. Puis on va passer d'une histoire d'horreur à une autre, parce que ce qui est arrivé aux Giants de New York hier. Aujourd'hui, ça devrait être une journée de deuil national. C'est une des plus grandes tragédies dans l'histoire de l'État de New York et les alentours. Je vais vous donner rapidement la liste des pires tragédies dans l'histoire de cette région-là. T'as le 11 septembre, t'as l'ouragan Sandy, puis t'as la fin de l'émission Jersey Shore, puis ensuite... le fait que les Giants de New York ne se sont pas qualifiés pour les playoffs, deuil national. Absolument atroce, je vais vous dire rapidement. Ben, avez-vous regardé le match?
J'aime ton humour, mais tu es en train de comparer la non-qualification des Giants puis la fin de Jersey Shore au 11 septembre. C'est quelque chose.
Deuil national. Comme je t'ai dit, il n'y a rien qui pouvait arriver hier qui aurait été pire que ce qui est vraiment arrivé. C'est incroyable. Donc, les Giants ont brisé le cœur des Cowboys en après-midi. Ils ont battu Dallas et tout ce dont ils avaient besoin, c'était que Washington perde contre Philadelphie pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Et Washington menait par 3 à la mi-temps et Philadelphie jouait beaucoup mieux. Et l'entraîneur-chef des Eagles, Doug Peterson, a juste décidé de lever le drapeau blanc puis d'abandonner la saison. Puis il a mis sur le banc ses meilleurs joueurs, donnant ainsi la victoire à la Washington Football Team et brisant le cœur des New York Football Giants. Et je pense qu'un moment de silence devrait être reconnu pour cette tragédie-là. Et je vois vraiment, vraiment rien de pire dans l'histoire du sport de New York, à part Adam Gase, que ce qui est arrivé cette fin de semaine. Puis j'aimerais votre avis rapidement sur ça, si vous avez suivi un peu.
Tu viens de dire, là, qu'est-ce qu'il y a de pire en termes de sport à New York, c'est les Jets. C'est ça.
Ouais, mais Adam Gase s'est fait mettre dehors ce matin, donc c'est une bonne nouvelle.
Ouais, mais la saison des Jets en soi est pire que celle des Giants. Là.
Ben, je veux pas te faire de peine, Vincent.
Oui, mais...
Ouais, parce que j'ai comme un délai. En tout cas, je vais pas te faire de peine, Vincent, mais tu vas pas essayer avec 6 victoires. Je suis désolé. Cette division-là ne devrait pas avoir le droit d'avoir un spot en série. Sincèrement, là. Je sais pas, mets un troisième spot à la division ouest à NFC, là, mais enlève-moi ça, ça n'a pas d'allure.
Comment est-ce que c'est... Il n'y a aucun monde dans lequel tu peux faire les séries avec une fiche perdante. À part dans la NFL.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais mettez-vous dans la situation des partisans des Giants. Disons que le Canadien de Montréal est sous 500, mais que la conférence Est ou Atlantique au complet est vraiment mauvaise, puis que vous arrivez au dernier match de la saison, puis que toute la saison, vous vous battez pour les playoffs, puis vous avez juste besoin que les Bruins gagnent. Mais les Bruins décident, ah non, on va faire les Canadiens puis on va bencher tous nos bons joueurs. pour perdre, pour que Montréal ne fasse pas les playoffs. Vous allez être hors de problème.
Je suis d'accord, puis je comprends ce que tu dis, mais quand tu as une fiche de 6-10, peu importe, tu mérites de faire les séries. Peu importe ce qui s'est passé.
D'accord, je suis d'accord avec toi, mais j'aurais bien aimé voir ça. J'aurais trouvé ça, ça aurait été intéressant, parce que ça aurait été les Giants dans les séries contre Tom Brady. Puis on sait ce qui arrive historiquement dans ce match-up-là.
Ouais, mais c'est les Giants qui ont une bonne équipe. Ça aurait été les Giants qui ont une équipe de merde.
Toujours les Giants. Ça aurait été belle fun. Puis aujourd'hui, ce fut bien plaisant. On a fait le tour de toutes nos nouvelles. Oui. On espère vous avoir fait rire. On espère vous avoir diverti. Et ça va être pas mal tout pour cette première édition du podcast Retour en force. On vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis on vous promet qu'on va faire mieux la prochaine fois, même si je pense que ça a été pas mal bon aujourd'hui. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Johan, Pierre-Luc, Étienne, dites-nous adieu.
Ben,
salut. Au revoir.
Oui, au revoir. Adieu, mon Dieu.
Au revoir. On se revoit la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.